Radio Éphémère 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 3 décembre, il fait un peu moins froid là en ce moment, enfin bon, comme tous les samedis, Radio Éphémère ouvre ses programmes avec les magazines, suppléments week-end, BD et télévision. Ah tiens, Thomas il boude, ah bah oui il est pas là. Puis le cahier du sport et à partir de 15h du mix avec en mode progression, 16h Big Bang, 17h Vie d'ordure, 18h on est chez nous, 19h Happy Hour, 20h l'STT Hero Experience avec DJ Tro, et quand c'est trop, c'est tropico, pardon, désolé, 21h30 Liquid Sky c'est l'électro, et 23h de la jungle jusqu'à Oula, 3h du matin avec PIO et SKS, Breakbeat Experience, voilà. Vous écoutez donc Radio FMR, nous sommes en direct sur les 89,1 MHz jusqu'à 5h du matin et après ça continue sur le net comme d'habitude www.radio-fmr.net radio-fmr.net.
FMR, vous n'aviez jamais écouté de radio.
C'est un peu idiot de bafouiller comme ça, je sais pas, là je suis pas en forme, non, il y a un truc, dites-moi, non. Bon, allez, hop, Xavier avec vous, bonjour et bienvenue. Et ben, c'est supplément week-end, on va parler de bande dessinée et de télévision, comme d'hab. Et je vous rassure, on sent l'arrivée de Noël, c'est bondé.
We'll be right back.
Cette tuerie, c'est Tief Schwartz, featuring Chin Kinky. Wait and See, l'édition évidemment radio. Ah, c'est taillé juste, hein. 3:46, c'est peut-être 12 secondes de trop, et encore. Bonjour et bienvenue donc samedi 3 décembre dans Supplément Week-end. On va parler de bandes dessinées. On vous a concocté une sélection assez particulière puisque primo, il y a vraiment que du bon et ça je le revendique. Hein, vraiment, il est difficile de se faire un choix. On a vraiment une production de qualité et pourtant il y a un volume énorme de BD qui sortent. Et d'un autre côté, eh ben vous allez voir. On va parler plutôt histoire, on va parler de l'Antiquité jusqu'au futur proche.
Process, they've been the true renegades, and the true rebels always walk alone anyway.
Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord sur ce que je dis dans mes chroniques, si vous souhaitez y mettre votre grain de sel, ou pourquoi pas donner simplement un retour, allez sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net. Là, vous allez dans les émissions du samedi, il y a Supplément Week-end. Normalement, il y a les liens vers donc le site, le mini-site consacré à l'émission, avec les chroniques BD textuelles, enfin du moins pour les miennes, quand je les écris, et puis voilà, hein, ça me prend la nuit. Et dire oui, non, j'ai moins, plus ou moins aimé, etc. Thomas, lui, n'est pas là aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de cinéma. Il faut dire qu'il il boude que j'ai justement coupé sa chronique la semaine dernière de Concrete, tout comme on l'avait coupé pour sa chronique de Superman Identité Secrète. Fallait dire que ces deux bouquins, on les avait chroniqués trois fois. Alors vous avez vu que autant Superman Identité Secrète, si vous avez suivi, c'était en mai dernier, hein, il y avait un consensus général de la rédaction là-dessus. Autant Concrete, il y en a deux qui ont aimé et moi qui n'ai pas franchement aimé. Alors non, mais je vous rassure, c'est prévu ce genre de gag, c'est normal que justement, enfin le sketch était prévu que je le coupe. D'ailleurs, si vous réécoutez l'émission, puisqu'on peut les réécouter en intégralité, vous verrez que ce qu'il dit dans le fond, c'est vraiment n'importe quoi, hein, c'est du yaourt, et puis voilà, non ? Bon d'accord, ok. Donc il sera de retour la semaine prochaine avec une grosse sélection DVD normalement. Et du sport devrait arriver aussi, alors avec les programmes de fin d'année et plein d'autres choses. Et juste pour vous dire que ça y est, ça commence à être la cohue dans les magasins le vendredi et le samedi, c'est une horreur. Normalement les deux derniers dimanches avant Noël, hein, alors là, en plus Noël tombe un dimanche, donc ça fait le 10 et le 17, les magasins seront ouverts normalement, donc vous pourrez tranquillement acheter entre guillemets, mais bon, ça va vraiment être la baston. Après, ben, je vais vous donner quelques petites indications donc sur des bouquins qui sont bien après tout à lire et qui feraient de très jolis cadeaux. Un problème, c'est que certes, la plupart sont des séries. Je suis désolé, mais bon, on va se faire une sélection. Allez, hop. Et je vous avais dit que l'on va rester dans le domaine historique, sauf sur le dernier où on est dans le futur très proche. Donc en 5 bouquins et 6 bouquins. Donc 5, voilà. Et ben on va partir dans l'Égypte antique. C'est n'importe quoi ce lecteur. Thank you. On va commencer avec une dessinatrice qui a vraiment un talent exceptionnel pour faire de la bande dessinée historique. Enfin, je vais pas dire que c'est exceptionnel, mais surtout, elle a un trait qui est très doux. Et d'un autre côté, elle a vraiment les qualités, je veux dire, pour rendre une émotion. C'est très très fort dans sa bande dessinée. Il s'agit d'Isabelle de Temps. Isabelle de Temps sur les terres d'Horus. Donc le cinquième tome vient de sortir chez Delcourt. Katie ou l'amour de Ninma. Isabelle de Temps, c'est une dessinatrice qui est assez envoûtante. Elle a un trait à l'aquarelle qui est très très doux. Le souci de la reconstitution, avec par exemple Tante Henriette où elle racontait sa tante Acariate dans l'après-guerre. Faut dire aussi que ce qu'elle a dû vivre pendant la Seconde Guerre mondiale ne devait pas être triste. Ingrid, le déclin et la destruction du Troisième Reich et la partition de l'Allemagne en deux, vu en 1944-1945, vu du côté des Allemands qui subissent ça, mais aussi d'énormes talents de conteuse dans le fantastique avec sa première série qu'elle avait faite, Mémoire de Sable, pour laquelle elle avait été découverte, ça fait maintenant il y a 10 ans, et Le Roi Cyclope, une trilogie absolument sublime chez Delcourt. Voici donc son travail sur une histoire qui est largement moins immédiate, puisqu'on vient quand même, oula, bien 3500 années en arrière. Regardez son travail sur l'Égypte du Moyen Empire, c'est un pur régal. D'abord pour les amateurs d'histoire antique, et aussi pour ceux qui justement ont vraiment envie d'être dépaysés. On se retrouve littéralement ailleurs par la richesse, par la simplicité de la civilisation égyptienne. L'histoire, ça se passe dans l'Égypte éternelle sous le règne lumineux de Ramsès II. Le prince Khémouaset mène des enquêtes avec la belle Mérésank, qui est une femme très intelligente. Mais ce qui les rapproche semble de plus en plus tourner vers une certaine passion pour ces deux-là. Ce qui n'est pas exactement du goût de la femme, la princesse Moutnet Gemet, car comme elle le dit, les rumeurs ont valeur de vérité à la cour et on dit qu'ils coucheraient entre eux, donc forcément c'est vrai. Pourtant, le malheur ne viendra pas de ces intrigues dans le cercle des proches de Pharaon. Alors que Khémouaset fait des inspections dans les monuments funéraires abandonnés qui sont proches du désert, à l'extérieur de ceux-ci, les Bédouins enlèvent Mérésank, Kéti, le propre fils de Khémouaset, et son frère, le prince Omri. En ressortant, le prince Khémouaset se met bien évidemment en chasse pour libérer ses trois proches. Mais les Bédouins semblent aller de l'autre côté du Sinaï, vers Canaan, vous savez, la Galilée, ou Babylone, vous savez, du côté du Tigre et de l'Euphrate, pour les revendre comme esclaves. L'opération devient risquée pour les soldats de Pharaon, puisque il s'agit plus de faire une vendetta, mais plutôt de ne pas trop ébruiter cette razzia de personnalité. Il en va de la réputation de l'Empire égyptien. Aussi bien, même si Ramsès est très 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 puissant à son époque, il y a quand même, il n'y a pas encore la Grèce, il y a la Crète qui commence un peu à décoller à cette époque-là, il y a Babylone qui est extrêmement puissante et qui quand même contrebalance bien Alexandrie dans le rôle de phare culturel. Et d'ailleurs, il y a les jardins suspendus, Babylone, c'est merveilleux du monde. En tout cas, c'est plus joli qu'une pyramide pour certains. C'est l'occasion absolument rêvée pour Isabelle de Temps pour nous faire voyager en dehors de l'Égypte. Déjà que l'Égypte de l'époque des pharaons est un univers qui est vraiment enchanteur. Une fois de plus, sa visite guidée nous transporte littéralement. Sa série est un roman en costume, plutôt précis, bien mené, et surtout d'une profonde richesse de détails. Et après, il y a l'histoire qui est vraiment superbe. Je vous redonne les références. Isabelle de Temps, elle est la scénariste et la dessinatrice. Sur les terres d'Horus, tome 5. Katie, ou l'amour de Ninma, c'est chez Delcourt. le grand bond en avant, 3500 ans plus tard, sur un continent absolument neuf et vierge qui est à conquérir. C'est un scénario de Serge Le Tendre, un dessin de Taduk Chinaman. Le tome 8 s'appelle Les Pendus, c'est dans la collection Repérage chez Dupuis. John Chinaman parcourt le Far West en venant du Pacifique. C'est un Chinois qui a débarqué en Californie dans les années 1860-1870. Parcourant, je vais dire, une Californie qui est en train de se développer, mais surtout un moment où on a beaucoup besoin des Chinois. Ben oui, c'est le moment de la construction des chemins de fer. Et John Chinaman n'arrive pas comme coulis, non, mais comme un tueur à gages des triades. Ah ben oui, si une communauté s'installe, forcément le crime organisé arrive avec. Un rôle qui va très vite abandonner dès le premier tome. Et depuis, il erre dans une Amérique où tout serait possible. Mais en tant que Chinois, il fait face au racisme implacable des Blancs. Ce n'est pourtant pas sur cette fibre que va vibrer cet épisode. John Chinaman travaille comme convoyeur, il est avec un chariot et puis point barre et continue ses voyages en taciturne comme d'habitude. Mais il va se retrouver encombré de Zed, un joueur de poker qui est un peu trop doué en général pour ses voisins de table. Vous savez, le joueur particulièrement pénible qui vous ramasse votre blé. En général, ça se finit soit avec un colt, soit le goudron et les plumes, soit avec des cornes. Un troisième homme va les rejoindre d'une étrange manière, en tentant de se pendre. Et c'est Zed qui va le récupérer au dernier moment. En le sauvant, Chinaman et Zed n'auraient jamais pensé être poursuivis par des aventuriers un peu sensibles de la gâchette. Chinaman, cette série originellement créée aux éditions Humanoïdes Associés, s'épanouit dans la collection Repérage. Et insensiblement, dans le style western, où on ne l'attendait pas vraiment, Taduk, le dessinateur, s'approche de plus en plus d'un graphisme, du grand de ce genre de bande dessinée. Une célébrité, une pointure, mais pas que pour ça. Allez, je vous dis, l'Incal, le surfeur d'argent, il a comme copain Otomo, ah bah oui, Moebius. Plus exactement, le Jean Giraud de Blueberry. Et c'est étonnant comme Chinaman y ressemble de plus en plus. Après, rien à redire, c'est du très bon, et même Jackie Chan fait très ridicule à côté. Au scénario, Serge Le Tendre, et au dessin, Taduk. La série s'appelle Chinaman, le 8e tome, Les Pendus. C'est dans la collection Repérage, chez Dupuis. Alors c'était Square Pusher en fond sonore, je vais en réenchaîner dessus et là vous avez bien évidemment reconnu la bande son de Cowboy Bebop. C'est Supplément Week-end sur Radio FMR, il est midi et 20 minutes. Eh oui, c'est un live de Square Pusher que je mets en fond depuis tout à l'heure. Et j'entends du sport qui arrive, ça tombe très bien parce que je sais qu'il va en avoir à dire sur le dessinateur dont je vais parler tout de suite, donc je vais le laisser s'installer. Et en tout cas, ah si. Et ben voilà, ça y est, il a tilté. Je le laisse s'installer, voilà. Il s'agit de Will Eisner, le complot, l'histoire secrète des protocoles des sages de Sion. C'est chez Grasset et c'est le seul one-shot de ma sélection cette semaine. En tout cas, c'est vraiment une histoire qui, à mon avis, mériterait d'être lue et vous allez vite comprendre pourquoi. Les protocoles des sages de Sion, c'est un immense best-seller. Ça a été édité à des millions d'exemplaires en plusieurs éditions. Ça a été adapté plusieurs fois. Les traductions ont été plus ou moins hasardeuses. On le retrouve surtout dans tous les milieux extrémistes, les cathos, tendances dures, les xénophobes, les racistes, et surtout les antisémites. Mais pas que, malheureusement. Ce livre est pourtant un immonde plagiat. Celui d'un essayiste anti-bonapartiste qui est resté quasi inconnu, si je vous donne son nom. Eh ben, je suis sûr que vous allez être surpris, mais voilà. Donc, c'est un Français qui s'appelle... Ah, punaise. J'ai oublié. Bah, de toute façon, il mériterait pas de rester connu, on va dire. Donc il s'agit d'un Français qui a écrit dans les années à la fin des années 1850, début 1860. C'est un essayiste anti-bonapartiste qui est resté donc quasi inconnu et il a en fait voulu par un dialogue imaginaire entre Machiavel et Montesquieu démonter ce que faisait à l'époque Napoléon III. Et ces soi-disant plans secrets fomentés par les juifs pour dominer le monde, et ben en fait, ce n'est qu'une ressucée complète de ces dialogues imaginaires. Le Times, le quotidien anglais, le démontra en 1921, au moment où les protocoles de sages de Sion commençaient à sérieusement devenir le principal débat de la vie politique en Europe. Et l'Express publia les recherches par des auteurs, par des scientifiques russes, par les historiens russes, sur ses origines en 1999. C'est justement cet article de l'hebdo français qui a incité cet auteur américain, Will Eisner, à faire donc cette bande dessinée. Les protocoles des sages de Sion, c'est un plagiat qui a été commandé par la propagande du tsar Nicolas II à l'aube du XXe siècle. C'est une œuvre de propagande tellement efficace que le tsar lui-même y crut, ce qui accéléra sa chute dans son délire paranoïaque, puisqu'il a dit, ben voilà, la faute à la Russie, à la famine, etc., c'est les juifs, les juifs, les juifs, les juifs. Donc forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il n'a pas vu venir les révolutions de 1905, et même celle de 1917. Pourtant, même démasqués, ces fameux protocoles eurent un succès monstrueux par la suite. Ils sont toujours distribués à la sortie des écoles américaines. Ils furent soutenus en 1920 par Winston Churchill. C'était juste avant, évidemment, l'article dans le Times. D'ailleurs, Winston Churchill a fait amende honorable la semaine suivante, immédiatement. Et ils furent même adaptés l'an dernier par la télévision publique égyptienne, Le Chevalier sans Cheval, une série qui a été reprise par la plupart des télés arabes publiques. Ils furent l'alibi à des exactions déplorables jusqu'à l'être l'un des soutiens à la pire abomination du siècle passé. Évidemment, il s'agit de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale. Et non seulement ils ont attisé l'antisémitisme, mais aussi le vieux racisme le plus violent, le plus brutal, puisque il faut le dire quand même que les Arabes eux-mêmes et les Noirs en pâtirent de mauvaises traductions, de traductions un peu libres justement, des protocoles des sages de Sion. Will Eisner est un dessinateur qui, pendant plus de 70 ans, a profondément marqué la bande dessinée aux États-Unis, en créant le plus célèbre détective, le Spirit, et en popularisant le concept de graphic novel, c'est-à-dire d'histoire complète, en un album. Cela faisait des années qu'il souhaitait s'attaquer au protocole, en racontant leur histoire, un siècle de manipulation, de fanatisme et d'empoisonnement de l'esprit. Une histoire complexe aux multiples intervenants. Mais une fois colportée par la rumeur dans les milieux les plus radicaux et les moins ouverts d'esprit, quoi que l'on fasse pour contrer un gros tissu de conneries, il est strictement impossible de faire comprendre la supercherie. Il n'y a rien de plus rationnel à ce niveau de crétinisme. Cela a été démontré des dizaines de fois. Hitler s'en est servi comme il a pu, le Ku Klux Klan aussi. Plus c'est gros, plus ça passe. En comptant l'histoire de ce brûlot depuis celle de son auteur originel jusqu'à nos jours, Will Eisner a voulu laisser une œuvre très forte qui pourrait enfin mettre fin à ce mensonge. peine perdue, mais au moins il l'aura tenté avec le meilleur de son talent. C'est aussi sa dernière BD, puisqu'elle est sortie à la fin de l'année dernière, juste avant sa disparition, il n'y a que quelques mois. Et
au début de l'année.
Au début de l'année,
tout
oui.
Tout au début de l'année, hein, le, oui, le en 3 janvier.
En janvier, pardon, voilà, exactement.
C'en est un qui n'a pas passé les fêtes. Enfin, qui a passé les fêtes, mais mal, quoi.
En tout cas, pour ce bouquin, ce qui... Non seulement pour ce qu'a amené Will Eisner dans la bande dessinée américaine, mais aussi dans la bande dessinée mondiale, cela valait bien une longue préface d'Umberto Eco et un lien avec Maus, tellement que ce livre est puissant, il est étonnant. Will Eisner, le complot, l'histoire secrète des protocoles des sages de Sion, c'est chez Grasset, et franchement, c'est à lire et... Enfin, toi, t'as même pas eu 10 secondes pour le feuilleter, là.
Ouais, non, mais de toute façon, bon, je connais l'histoire depuis vachement longtemps, mais ce qui se passe, c'est que le protocole, justement, ce fameux bouquin, est encore vachement édité, on peut le trouver sur le net, enfin bref, j'en passais des meilleurs, mais...
C'est comme Mein Kampf et tout ça, c'est pas des bouquins qu'on arrive à interdire,
c'est un des principaux bouquins hein, qui servent justement à alimenter la haine juive, hein, et on vise plutôt quoi, bien les groupuscules arabes et tout ça hein, qui s'en servent justement quoi, et qui servent, qui arrivent justement quoi, à raconter des conneries par rapport à ce bouquin à de jeunes gens qui sont complètement incultes et qui après vont se faire sauter la gueule parce que soi-disant eh bien ils ont cru à une certaine vérité qui n'est pas forcément la vérité. Enfin là c'est très très bien parce que bon c'est vraiment éducatif, c'est didactique et ça explique
l'histoire de l'article du Times de 1921, comment le journaliste s'est laissé convaincre les deux textes côte à côte, et c'est vrai qu'à les lire.
Non mais c'est ça hein,
c'est une ressuscité complète.
C'est ça qui est vraiment très très intéressant hein, c'est d'avoir le texte original hein, de cet illuminé français et la copie justement qui a justement donné lieu à ce bouquin qui s'appelle Le Protocole des Sages de Sion. Hein,
je pense que c'est intéressant d'avoir justement les trois bouquins côte à côte, non seulement le complot de Will Eisner mais aussi le bouquin original et les fameux protocoles. Mais je pense pas que Will Eisner se serait amusé à bidouiller l'histoire, quand même pas. Je pense que c'est vraiment intéressant une fois de plus d'essayer de remettre en place, je vais dire, une bande de connards. Donc voilà. J'ai bien cassé l'ambiance. Eh ben ça tombe bien, il est midi 29 minutes et 30 secondes et il y a la régie qui me dit que c'est l'heure de passer la publicité. C'est Supplément Week-end sur Radio FMR 89.1 MHz. Xavier avec vous pour encore la BD et du sport après pour la télévision.
Les Illustres Inconnus présentent Soirée in Progress version 1, samedi 10 décembre de 22h à 5h du mat, Battles of DJ and VJ, VJ Sacosette, DJ Bob Sagart, Alex Escalofrio, Franck de Villeneuve, Péniche, Le Cri de la Mouette, Place Héraclès, PAF 5€.
On va passer à littéralement autre chose avec Black Sad et c'est vraiment une BD qu'on a du mal à passer à côté, je veux dire, hein, quand on le lit. Du sport le regarde amoureusement depuis tout à l'heure, il se demande s'il doit s'y jeter dessus et moi je dis oui. Juan Diaz Canales au scénario, Juanjo Guardino au dessin. Le troisième tome de Black Sad est un événement comme les deux premiers, il s'appelle Âme Rouge, c'est chez Dargo. Et on retrouve Black Sad où après avoir été le garde du corps d'un vieux riche s'offrant une virée à Las Vegas, Black Sad se privé et revêche comme un matou, retrouve par hasard celui qui lui a donné la chance de s'être sorti du ghetto. Otto Lieber est devenu, au début des années 50 aux États-Unis, un physicien renommé, l'un des pères de la bombe H, mais milite désormais pour la paix, ce qui le fait passer pour un coco. En parlant d'atomiser les communistes, Eisenhower, qui se présente à ce moment-là, fait peur à une foultitude de gens, dont l'élite culturelle, plutôt marquée à gauche qu'à la droite des faucons. Et à propos des faucons, et ben ces derniers attisent la peur des rouges grâce à un sénateur complètement parano tellement qu'il est alcoolo, il s'agit de Mark Carty. Donc en retrouvant cet ami d'enfance, Black Sad va rentrer dans les cercles où se mêlent intellectuels, peintres, savants, atomistes, mécènes branchés un peu cabots, mais où tournent aussi des soupçons d'espionnage et les agents du FBI assoiffés de rouge. Les auteurs se sont connus dans l'un des studios Disney d'animation qui furent récemment fermés. Ils sont partis dans un délire étonnant qui est unanimement salué par la critique. Une bande dessinée adulte aux scènes de violence et de sexe cru. Un scénario de polar noir à la James Ellroy. L'ambiance riche et jazzy de l'Amérique des années 1950 et un dessin animalier. Plus exactement anthropomorphique, c'est-à-dire l'art de donner un aspect humain à des animaux. Car c'est ce que les auteurs ont appris à faire chez Disney. Donner des traits et des expressions terriblement humains à des animaux, qu'ils soient loups, chats, hiboux, porc-épic, crocodiles. Ils sont tous à la fois hommes dans leurs expressions et animaux dans leur apparence. À moins que ce ne soit l'inverse, on ne sait plus vraiment. Le doute est permanent, mais quand l'histoire noire à souhait vous captive, eh ben là aussi, c'est comme voilà ces gros mythes. Vous ne vous apercevez même plus de cette magie et vraiment de ce travail incroyable. Juan Diaz-Canales et Juan Roguardino, Black Sad, de troisième tome, s'appelle Âme Rouge, c'est chez Dargo et c'est énorme. On est parti de l'Égypte, du Moyen-Empire, un millénaire et demi avant Jésus-Christ. Ensuite, on est passé par le Far West, par l'Europe des bas-fonds pendant un siècle et donc par l'Amérique des années 50. Le rêve américain, grandiose. Allez, maintenant, on va vers le futur. Attention, je vous emmène pas trop loin dans le futur, puisqu'il s'agit de Dallas Bar. Le dernier tome vient d'arriver, toujours Joe Haldeman au scénario, plus exactement de la nouvelle initiale qui a été complètement adaptée donc par Marvano qui le dessine. Dallas Bar, le septième tome, s'appelle La Dernière Valse. C'est dans la collection Polyptyque chez Le Lombard. Et Joe Haldeman, eh ben, c'est un auteur de science-fiction qui est déjà bien reconnu à la fin des années 70, qui rencontra par hasard dans un hôtel un jeune dessinateur hollandais qui s'appelle Marvano. Et ce dessinateur lui dit « Mon rêve serait d'adapter en BD votre chef-d'œuvre, La Guerre Éternelle ». La réponse pacifiste de l'époque de la guerre du Vietnam au guerrier étoile garde à vous, devenu Starship Trooper, qui a été écrit pendant la guerre de Corée. Écrite par un vétéran, donc ce roman qui avait déjà eu le prix Hugo, le prix... je crois me souvenir que Joe Haldeman a eu plusieurs fois le prix Hugo. Hein. Attention, hein, c'est le meilleur prix de la science-fiction mondiale. Et ben donc... La guerre éternelle, Marvano lui fit gagner en force en devenant une bande dessinée. Fort de ce succès, d'ailleurs il fera une suite parallèle Libre à jamais, Marvano demanda au romancier, à qui il était devenu très copain, s'il pouvait adapter à sa guise l'une de ses nouvelles, Dallas Bar. Il en fit une incroyable série d'anticipation, un futur proche, où l'on se retrouve immédiatement dans ses marques, mais dont les innovations ont apporté un certain changement au quotidien, et pas forcément combien d'ailleurs. Marvano enrichit ainsi l'histoire du deuxième homme le plus vieux sur Terre, Dallas Bar, meilleur ami de Julius Tillman, l'inventeur de la cure d'allongement de vie, devenu homme le plus riche sur Terre, qui permet d'acheter l'immortalité par tranche de 10 ans, à condition que vous ayez 1 million de livres sterling, et tout ce que vous avez à côté, eh ben, quand vous allez suivre cette cure, eh ben, on vous le prend. Mais hélas, toute chose a une fin, et c'est à l'approche de l'année 2100 que se conclut cette excellente série d'aventures où Stillman et Barr vont découvrir ce qu'implique vraiment ce traitement, non seulement au niveau physique, mais aussi à l'échelle psychologique pour l'humanité, par le fait de voir vieillir et disparaître ceux que l'on a connus qui peuvent pas se payer ce traitement, et aussi les effets insoupçonnés donc du fameux traitement du docteur Stillman. Vers quoi tendra l'humanité ? Si à ces enfants nés juste après la Seconde Guerre mondiale qui ont mené mai 68, on pouvait vendre l'éternité, qu'en ferait-il ? On est au-delà de la hard science, ou plutôt dans le concept du terme francophone d'anticipation, je vais dire, hein, point de vue science-fiction, c'est-à-dire les bouleversements politiques et sociétaux. Non, je dis rien, c'est à vous de découvrir. Je vais juste dire une chose, c'est que ce dernier tome m'a un peu déçu par la fin et aussi par un graphisme qui est beaucoup moins soigné, je veux dire, que les premiers tomes. En tout cas, eh ben voilà quoi, c'est ça reste littéralement énorme. Joel Edelman au scénario, Marvano au dessin, Dallas Barr, le septième tome et dernier tome s'appelle La Dernière Valse. C'est dans la collection Polyptyque chez Le Lombard. Et avant d'entamer avec du sport, on va se faire une pause musicale. Max Siedgley, happy!
Make you happy.
Radio Éphémère, c'est Supplément Week-end, midi 43 minutes et 59 secondes et 999 millièmes sur l'horloge atomique de la radio. Et du sport se taille au moment où c'est censé être à lui, je peux vous dire, c'est pas évident. Donc on va faire ce que l'on appelle techniquement meublé, c'est-à-dire vous dire que si vous souhaitez réécouter l'intégralité de toutes les émissions depuis nos débuts, sauf la toute première, tiens, on n'a pas en entier, allez sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net et là vous cherchez dans les émissions du samedi Supplément Week-end, ou sinon encore mieux, vous tapez dans Google Supplément Week-end entre guillemets et vous cherchez MP3 OG. Je peux vous dire, je sais qu'il y en a qui arrivent comme ça. Donc il n'y a pas de souci. Vous aurez donc les meilleures infos, les, je vais dire, hein, vous pouvez surtout nous dire, ah ben non, moi je suis absolument pas d'accord avec ce que vous avez dit à propos de tel bouquin, que c'est une merde infâme, etc. Ou telle série télé, mais non, elle est très bien, qu'est-ce que vous avez à lui bastonner dessus ? Du sport, alors je t'explique un peu ce qui se passe, ça faisait un bail... Oula, excuse-moi, je l'ai monté un peu trop tôt. Cela faisait un bail que on voulait monter cette séquence. On avait eu plein de petites idées de séquences, mais on n'avait pas eu le temps de le faire. C'est le top 5. Le top 5, c'est un top complètement arbitraire d'un truc à la con. Et ça aurait pu être le top 5 de la sélection, par exemple, des chroniqueurs de l'association des chroniqueurs de bande dessinée, puisque j'en fais partie. Mais le top 5 n'est pas encore pris. On a les 5 sélectionnés, mais on ne sait pas encore qui aura le prix. Je vous le donnerai la semaine prochaine. Donc en attendant, eh ben on va inaugurer le top 5 avec le top 5 des people les plus détestés de France. Non, c'était nul, pardon. Donc le top...
Ah ouais, ça a pas marché.
Ça a pas marché du tout. On va essayer. Ouais. On va essayer tout simplement parce que les jingles sont pas prêts. Donc du sport, on va faire à rebours. Tu vas me faire top 5, top 4, top 3. Tu vas commencer tout de suite avec le top 5.
Le numéro 5.
Et figurez-vous que le numéro 5 des people les plus détestés de France, suivant une enquête donc qui a été faite par RMC Info, il s'agit de Arthur, l'animateur producteur de Endemol France, qui a un joli contrat de fermage de TF1, parce qu'il fait ce qu'il veut hein, sur TF1, entre 19h et pratiquement 22h. Et je crois que même s'il a tout fait pour être l'homme le plus con, l'animateur le plus con de la FM à ses débuts et maintenant donc le chouchou des ménagères de 50 ans, bah je crois que visiblement ça commence sérieusement à gasser quoi.
Numéro 4.
Il s'agit de, tenez-vous bien, allez, si je vous dis qu'il est incontrôlable en février, que c'est un mec qui a commencé par faire les bulletins radio sur Skyrock et ensuite à faire le con les matinales sur M6, il s'agit de Michael Youn. Je crois qu'il en a un peu trop fait. Donc voilà, allez hop.
Numéro 3.
Il s'agit d'un mec, qui conduit très 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 vite et récemment il a boxé un styliste qui voulait lui filer des vêtements gratos. Bon, je veux bien croire que les lignes streetwear de banlieue, c'est vraiment pas génial comme design, une exception près hein, que je porte sur moi, mais on va pas faire de pub. Mais je veux dire, voilà, donc il s'agit de l'acteur de Taxi, Sami Nasseri. Bah après tout, il a fait de très bons films hein, à côté, donc je vais pas râler. Non. Donc voilà.
Numéro 2.
Ah mais vite Guy, fais un papier, Marc-Olivier Fogiel est la deuxième personne, le deuxième people le plus détesté de France.
Et numéro 1 est...
Allez, si je te dis Marc-Olivier Fogiel, il y a forcément un pendant négatif.
Ah je vois pas là, non, attends.
Dieudonné.
Ah ouais.
Donc voilà, c'était le top 5 des people les plus détestés de France. Il s'agit pas d'un show à la rédaction, mais d'une enquête qui a été menée par RMC Info. Donc voilà. Thomas avait une autre sélection pour cela, mais voilà, les absents ont toujours tort. Donc voilà, zou. Ah.
Comme ça.
La télévision vous est présenté par Du Sport dans Supplément Week-end.
La télé baisse un petit peu la musique de fond là, ou alors
ouais, vas-y. Voilà,
ouais, ça va être mieux là comme ça.
La télé avec tout d'abord ses photos dans le journal. Alors vous, à la radio, vous voyez rien, c'est con pour vous. Alors est-ce que tu arrives à reconnaître le bonhomme là?
Winston Churchill.
Non, ouais. Pas du tout. Il s'agit de David Jason. C'est encore, c'est marqué en grand en plus dessus. Tu
vois, ah mince, attends, c'est pas le chroniqueur ultra connu de...
Absolument pas. Non, il est pas du tout en fait. David Jason, qui est connu surtout en France pour son rôle de l'inspecteur Frost, la série originale qui s'appelle A Touch of Frost en Angleterre. Et qui est diffusé, je crois, sur TMC la plupart du temps, et même qui a eu droit aux honneurs de France 3 également, hein, sur France Télévisions. L'inspecteur Frost, donc, qui est également connu en Angleterre pour d'autres séries, hein, des séries la plus connue qui s'appelle Only Fools and Horses, hein, qui a jamais été traduite en français, déclinée en français bien entendu. Et également Open All Hours. Il y a également The Darling Buds of May et bien entendu hein, Touch of Frost, qui est l'une des plus récentes. 65 balais. Mais regarde bien la photo en bas là. C'est celle-là la plus importante. Regarde.
Eh oui, c'est quand la reine la double.
C'est quand la reine elle pose son épée sur son épaule droite.
Au nom de l'Empire et de Dieu.
Qui a été fait chevalier de l'Empire donc et désormais il faut l'appeler Sir David Jason. Et ce qui est assez rigolo aussi c'est que ben 24 heures plus tard, enfin bon, il s'est fait faire chevalier et le lendemain, il s'est marié avec sa seconde femme.
Ah ouais, s'il vous plaît.
Mariage et tout, tranquille, peinard et tout, à l'âge de 65 balais. Chapeau, monsieur David Jason, hein, excellent acteur au demeurant. Voilà. Un petit rappel pour commencer. Un rappel par rapport à Jeff Cobert la semaine dernière. Je vous avais parlé surtout de cet acteur. De films, d'apparitions, cet acteur de gueule et tout, mais c'est pas uniquement un acteur, il a également fait un film, il a réalisé un film documentaire, tout simplement sur une actrice qu'il a pas mal côtoyée, puisque il s'agit de Dana Delally, hein, il joue avec elle dans China Beach. Dana Delally, on l'a également vu dans un rôle féminin dans une série d'Oliver Stone, une mini-série qui s'appelait Wild Palm, je sais pas si tu te rappelles, avec James Belushi, enfin
ça fait un bail hein.
C'était assez bizarre. Ça fait pas 10 ans hein, grosso modo hein. Wild Palm ça fait 96 hein, ça fait à peine 19 ans, tu vois quoi, tranquille.
Okay,
donc
Dana
Delally Jeff Cobert a réalisé un documentaire complet sur la vie et sur le travail de cette nana, et il est également dessinateur, il a fait des dessins originaux, il a fait les décors de la série de vampires dont je te parlais une fois, dont le héros principal est mort, l'acteur est mort, et donc ils ont interrompu cette série avec les différents vampires, hein, qui différents groupes comme ça, quoi. Alors, et lui, Jeff Cobert, c'est le patron d'un des groupes de vampires, hein. Il y a Patrick Beauchaud qui est également patron d'un autre groupe de vampires, et puis bon, il y a des histoires, ils veulent bouffer quand même il y en a qui veulent bouffer les vivants et tout parce que bon, ils ont besoin de sang. Les autres qui disent, mais non, si on reste comme ça, on est bien parce qu'on n'attire pas trop l'attention. Donc ils nous foutent la paix de notre côté, les humains. Enfin bon, bref. Et la série, c'est une série qui s'appelle Kindred. Je me souviens pas de ce nom, Les Immortels, traduit un petit peu bâtardement. Mais enfin bon, une série quand même à revoir si vous avez l'occasion. Il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes. Je crois qu'ils ont tourné 13 épisodes et puis ça s'est arrêté. Puisque bon, l'acteur principal est mort. Donc voilà, hein, tout simplement. Voilà pour Jeff Cobert. Sinon, je t'ai ramené les photos donc.
Ah, mais c'est la couverture qui m'intéresse.
Du concours qui va inonder vos écrans ce soir sur TF1.
Il s'agit du concours des vaches laitières, bien évidemment.
Quand même, justement pas quoi. Ça reste dans le raisonnable. Bon, alors on notera que comme l'affiche du programme du TNT à Toulouse cette saison. On est dans la tendance jeune fille nubile, hein, tu vois, quoi, maillot de bain, enfin, c'est pas tellement maillot de bain, moi je dirais plutôt hein, sous-vêtement petit bateau, hein, donc
moi je dirais
ça
que
renverse les tendances.
Moi je dirais que c'est un peu la, comment dire, la tendance Spice Girl.
Enfin bref, voilà, ouais. Donc je remarque aussi, moi il y a une chose, il y a une des choses qui m'a choqué, parce que là j'ai les photos de toutes les nanas sous les yeux, tu vois quoi, et il y a une chose qui m'a beaucoup choqué,
c'est qu'il y a pas de fontenay là.
Il y a pas beaucoup, c'est pas une Parker qui va gagner cette année, hein. C'est-à-dire c'est pas une Black qui va gagner cette année, parce qu'il y en a
pratiquement pas,
franchement Black, il y en a qu'une quoi, hein, tu vois. Après c'est un petit peu mélangé,
Miss,
café au lait,
Miss Guadeloupe, je crois.
Miss Guadeloupe, tu plaisantes ou quoi? Miss Guadeloupe est bien claire. Blair quand même, hein, c'est celle-là là. Tu vois,
oh pardon, bon, j'ai confondu effectivement.
La seule vraiment blague, c'est Miss Mayotte quoi.
C'est Lave plus blanc là.
Lave plus blanc, hein, vraiment quoi, tu vois, sans problème.
TF1 Inside, bravo, yes. bravo Jacques.
Allez, dans le monde du showbiz, ben
attends,
Frémont.
T'oublies de dire quand même, parce que là les photos sont extraites de Télémagazine, mais t'oublies de dire ce qui s'est passé en couverture.
En couverture, l'histoire du doigt d'honneur, enfin bon, voilà, tout le monde l'a vu, hein, de toute façon.
Non,
c'est
juste...
passé au zapping, allez, vas-y.
Donc il y en a qui ont dit que c'était peut-être Miss Alsace. Alors normalement celle qui a fait le doigt d'honneur ne pourra pas être enfin moi je dis chapeau quand même.
Ouais, parce que là elle a été cafetée la nana, je t'explique pas, ça a dû chauffer pour sa gueule, tranquille hein. Là grave quoi quand même, pas mal quoi.
Ah mais à mon avis elle a gagné son talk show sur M6 elle hein.
Ouais et Ardisson je pense quoi.
Oui,
elle peut faire du Ardisson là tranquille.
Allez hop. Hein.
Ah, on va le voir, faire dans son froc, le papa Ardisson. donc, un petit peu de people à mon tour, mais là, c'est du people de bon goût quand même, car il s'agit de Thierry Frémont, hein, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les pages de
Vassou
Gala, et il faut savoir qu'en novembre, bah, c'est la semaine dernière, hein, le 21 novembre, ça se passait à New York, c'était une cérémonie un petit peu à côté des Emmy Awards, mais qui est fait partie des Emmy Awards, concernant les programmes étrangers qui sont également primés, et reçoivent également un Emmy. Et Thierry Frémont, donc, a reçu un International Emmy Award.
Meilleur programme non-américain.
Ouais, du meilleur acteur pour son rôle de Francis Holmes dans le téléfilm Dans la tête du tueur, hein, que j'avais chroniqué, qui était vraiment très très bien.
C'est vrai qu'il avait,
excellent.
Il avait vraiment le regard. Bon, il y avait plein d'incohérences dans l'adaptation, c'était pas très exact.
Ouais, non, mais.
Mais
bon,
franchement, lui, la manière dont il a fait, c'était, mais flippant.
Ouais.
C'était impressionnant.
Ça le faisait pas mal. Donc, chapeau quand même, à Thierry Frémont, voilà. Un petit peu de Sci-Fi Channel à présent, hein, pour décortiquer vite fait les, les séries qui passent quand même, quoi. Parce que bon, j'en ai parlé la semaine dernière, surtout Battlestar Galactica, et je vous en ai parlé quand il y a eu cette diffusion, hein, de ce pilote, de cette nouvelle version, donc, de Battlestar Galactica avec, Tricia FR, avec Edward James Olmos, et bien d'autres. Il n'y a pas que ça sur Sci-Fi Channel. Il y a également, on va dire, c'est la seule inédite, hein, de toute façon, quoi. Bon, bah, c'est voilà. Mais il y en a d'autres qui valent le coup parce que ce sont devenus des petites curiosités, ce sont des raretés, ce sont des séries qui sont tellement immémorial que ça fait toujours plaisir de les revoir de temps en temps comme ça quoi, vite fait. La quatrième dimension, j'en parle même pas, hein, c'est laisse tomber quoi. C'est du classique. Au-delà du réel, l'aventure continue.
Qui est la série concurrente.
La série concurrente, mais ça c'est la nouvelle version. Hein, c'est-à-dire version de 95 avec les frangins Bridges, Beau et Lloyd. Il y a également La Belle et la Bête. Alors ça c'est très belle série, hein, sur le thème archi connu de La Belle et la Bête, sauf que là, c'est l'histoire du monde d'au-dessus et de ceux qui vivent dans les égouts et tout ça, parce qu'ils sont un petit peu à part, et l'histoire de La Belle et la Bête, Linda Hamilton, qu'on connaît, et Ron Perlman, surtout, dans le rôle de la bête, bon là, on reconnaît pas tellement sa tronche à Hellboy, hein, de toute façon, vu qu'il est complètement maquillé, et c'est vachement bien foutu, qui est journaliste et qui descend dans le monde du dessous pour savoir pourquoi ils sont en dessous quoi. Et bon, c'est pas mal, une série qui a duré plusieurs saisons, qui s'est arrêtée parce que bon, il y avait quelques valeurs vraiment nobles qui étaient développées, et puis bon, ça collait pas, c'était pas trash, c'était pas tu vois, enfin bon, c'était bien quoi, c'était juste bien quoi. Sinon bon, il y a bien entendu sur Sci-Fi Channel, il y a Star Trek, les pyjamas. Il y a également Alf. Alors ça va être rigolo de voir ça surtout en VO, hein, parce que
c'est en VO.
Ouais, il y a les deux versions. Donc il y a la version française Roger Carrel, Astérix. Mais ça fait rien, c'est quand même pas mal. Et Paul Fusco, hein, bien sûr, pour la version originale.
À noter à propos de Alf, c'est qu'ils viennent d'éditer aux États-Unis donc le DVD avec la série de Alf, mais il y a un énorme scandale. Puisque contrairement à la série sur intégrale en VHS, l'intégrale en DVD, c'est les épisodes qui sont diffusés sur les chaînes qui sont affiliées. C'est-à-dire qu'en fait, il manque 15 minutes, je crois, par épisode. En fait, c'est les pubs locales que l'on met à ce moment-là. Donc donc Alf, on espère que d'ailleurs aussi, on attend avec impatience une version en Europe. On sait jamais.
Ouais, pourquoi pas. Et sinon, je vous ai gardé la plus énigmatique, celle qui est la moins connue. En fait, si, sauf par certains qui étaient devant leur poste à tout prix pendant certaines années, qui ont vu cette diffusion, je crois que c'était sur la 5, me semble-t-il, hein. C'est les Superminds, Misfits of Science, une série un petit peu Zarb, où il y a des mecs qui ont des super peuvent avoir des super pouvoirs et tout, c'est assez rigolo. Mais ça a été arrêté parce qu'il y a eu la mort d'un des acteurs principaux, Dean Paul Martin, hein, avec Kevin Peter Hall. Dean Paul Martin, ça te dit rien si t'enlèves le Paul, c'est le fils de Lima. C'est le fils, hein, qui s'est écrasé au volant. C'est pas un voleur, non, mais aux commandes de son jet, hein, parce qu'il était également pilote de chasse. Et c'était en 87, donc la série s'est également arrêtée. C'est assez rigolo, et le générique de début, hein, c'est cultissime, c'est vraiment excellent, ça ne pas manquer du tout. Tout ça, donc, c'est sur Sci-Fi Channel, voilà, c'est ça. Sinon, du côté des séries, il y a du nouveau cette semaine, et c'est sur TF1. Et là, TF1, ils font quand même hyper fort, il faut dire, parce qu'ils nous proposent quand même une série. 9 mois après la sortie, c'est-à-dire moins d'un an après la sortie originale aux États-Unis, hein, diffusion. il est une heure, non, bah tu vois, c'est pas tellement calé, hein, parce que sur la pendule là, enfin c'est pas.
Enfin moi je me suis vraiment calé.
Ils ont changé la pendule, j'avais pas remarqué, là, la rouge a disparu.
Et t'as vu, on a même maintenant un moniteur là de télésurveillance là.
Non.
Bientôt la webcam, les gars.
Bon, j'en reviens à TF1 qui propose donc, eh bien, une série. Moins de 9 mois après sa diffusion originale aux États-Unis sur NBC en l'occurrence. Et quand on sait que TF1 a passé un deal, mais absolument, a signé des contrats absolument assez énormes, on va dire.
L'idée, c'est d'assécher France Télévisions et Canal+. Là, hein. Et
ouais, aussi, bien sûr, avec Dick Wolf Film, c'est-à-dire toute la déclinaison des séries Law and Order, tout ça. Et ils ont obtenu justement bien la nouvelle déclinaison de Law and Order Trial by Jury, qui est passée donc en février sur NBC. Alors une série où les personnages principaux sont interprétés par des gens qu'on connaît déjà parce qu'ils apparaissaient dans les Law and Order les dernières générations, à savoir les dernières saisons, avec Fred Dalton Thompson, c'est le district attorney, le mec qu'on voit toujours à la fin, qui cause avec les gens et puis qui donne le mot de conclusion généralement à la fin de l'épisode. C'est le district attorney Arthur Branch. Et également on verra dans cette nouvelle série Trial by Jury, eh bien, encore les dernières apparitions de Jerry Orbach avant son décès. C'était il y a un an, hein, Jerry Orbach à un ou deux jours près, quoi. Il y a un an, Jerry Orbach s'éteignait dans le rôle de Lenny Briscoe. Et des petites nouvelles, si vous préférez, hein, dans cette nouvelle série, c'est normal. Bébé Neuwirth, c'est pas une nouvelle en tant qu'actrice parce qu'on l'a déjà vu dans Cheers. Et également Amy Carlson, qu'on a eu plus récemment dans la série New York 911, et ben 910 comme j'ai marqué. Law and Order. Et ce qui est très intéressant, c'est que TF1 va nous présenter cette nouvelle série dans le même style que les experts New York il y a une quinzaine de jours, hein, c'est-à-dire à l'aide d'un crossover et à l'aide d'un épisode double. Et là, l'épisode double, eh bien, pour introduire cette nouvelle série, hein, telle que ça a été fait aux États-Unis d'ailleurs, eh bien, on est passé par l'une des déclinaisons de Law and Order, c'est-à-dire New York District, New York Unité Spéciale, avec Christopher Meloni, Mariska Hargitay, Ice-T, celle où il y a Ice-T dedans, voilà, maintenant, comme ça vous voyez tout de suite. Et donc, mercredi soir à 22h35, eh bien, un épisode de la saison 6 de New York Unité Spéciale, hein, la première partie donc, et en suivant, eh bien, 23h25, c'est le premier épisode de New York Cour de Justice, comme ça s'appelle en français. Titre original, je rappelle, Trial by Jury. Et qui fait donc deuxième partie du New York, qui fait suite au New York Unité Spéciale. Et pour introduire donc les nouveaux participants à cette grande fête qu'est Law and Order.
Ouais, je sais pas, Cour de Justice, moi j'aurais plutôt mis.
Ouais, non, mais c'est comme d'habitude, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
En plus, ça va être coupé à mort et diffusé n'importe comment. Alors bon, voilà quoi, TF1 Inside.
Ouais. À noter quand même la participation comme suspect principal de toute façon, hein, mais tout ça c'est quand même du lourd, quoi, on va dire, en tant que guest, hein, c'est Alfred Molina, Docteur Octopus, mon gars. Donc ça va être pas mal. C'est un peu con parce que bon, passer des trucs comme ça, bon, bah c'est vrai que les sujets sont généralement pas trop ragoûtants, hein, mais bon, il va encore falloir se taper un épisode après 11h du soir. C'est bien pour les gens qui travaillent en semaine. Ça fait vraiment plaisir. Merci les gars.
Ah, ça, toi aussi, enfin, t'adores. Hein, ça.
Ouais, ça fait plaisir. Hein, ça
merci.
Fait plaisir. Ok, donc c'est mercredi prochain. Un petit topo vite fait sur. Ouais, on a le temps de toute façon. Quoi.
Oui.
Facile. Un petit topo. Et là, vous avez l'air d'aimer ça, donc je vais en rajouter encore une couche et tout. Hein. Dans la série, les acteurs que vous connaissez, leur tronche, mais bon, on sait jamais. Puis ils apparaissent de temps en temps. Et on les voit jamais dans des premiers rôles. Si, lui on l'a vu dans un premier rôle et assez récemment d'ailleurs. C'est Ray Wise, né le 20 août 47 à Akron dans l'Ohio, ouais, la capitale du pneu, la ville qui a vu naître Devo, le groupe cultissime.
Et oui, c'est
début
vrai,
des
oui,
années 80, et bien d'autres, hein, y a pas que eux, quoi. Ray Wise qui a commencé sa carrière, bien entendu, à la télévision, avec des séries, la première série c'est Love of Life en 70 à 76, rôle récurrent. Ensuite, il a également fait, dans le même style, quoi, c'est-à-dire du soap, hein, du vrai soap. Du pur et dur, hein, un qu'on connaît mieux, Love of Life, c'est vachement mieux. Ça a pas été importé chez nous. Par contre, Days of Our Life, ça a été importé chez nous, hein, c'est des jours et des vies. Il y a joué en 82, en 83. Il a également fait Dallas en 82, Notes Landing en 88, et c'est en 90 qu'on commence à reconnaître sa tronche dans la rue, on va dire, hein. Grâce à son rôle dans la série, une des séries qui a marqué le tournant dans le rôle des séries américaines, là, dans la façon d'introduire une série à la télé, et un thème de série à la télé, hein, c'est son rôle de Leland Palmer, le père
de Laura Palmer
dans Twin Peaks. Voilà, yes. Ray Wise, maintenant vous savez qui c'est, maintenant vous avez vu cette tronche.
Yeah.
Pas de problème. D'ailleurs, dans un site qui lui est un petit peu consacré, hein, qui est un espèce de tronchoscope, hein, spécialisé dans ce rôle de truc, il est noté que comme signe particulier, quoi, il aime bien jouer les papas. Il est également papa dans une autre série que bon, moi je suis un fan absolu, qui s'appelle Savannah, qui a été tournée en 95, 96, 97, où joue le rôle d'un papa d'une nana avouée et peut-être le papa d'une autre des trois héroïnes de la série. Si, hein. Jamie Lerner, hein, qui joue dans cette série, hein, qui est devenu profileur après Ali Walker.
Mais ça tire dans tous les coins.
Ah, ouais, à fond. Et il est également dans Savannah, il est également sénateur, je crois, un truc comme ça. Enfin bon, quand même bien, quoi, pas mal. Dans les films, au niveau des films, ben il a joué dans le film Swamp Thing, c'est-à-dire La Créature du Marais, la version de 82, dans Cat People également, hein, mais toujours des petits rôles, hein, dans Robocop en 87 avec Kurt Smith qu'on voit dans Seven Cities Show, hein, le père, hein,
ouais.
Il a également joué dans Bob Roberts en 92. Et le film qu'il a un petit peu révélé, je veux dire, au grand public, hein, c'est son premier rôle dans Jeepers Creepers 2. Mais là, bon, ok, dans un rôle un petit peu spécial, mais là pour une fois, c'est lui le premier rôle. Et alors, du côté apparition dans les séries, il a tout fait. Tranquille, sans problème, hein, c'est normal, avec son rôle, avec sa tronche, il n'y a pas de problème. Il a fait même des. Il a paru dans la saison 6 de West Wing, donc encore inédite en France, hein, dans la dernière saison de JAG, dans Dawson's Creek.
Ah oui, donc on l'a déjà vu dans ce cas-là.
Absolument, dans Charmed, Resurrection Boulevard, hein, il joue un rôle récurrent, je vous en ai parlé à l'époque, hein, cette série sur des boxeurs dans le East LA,
oui.
Où lui il joue le rôle d'un impresario vraiment enculé, du Ray Wise pur et dur, hein, sans problème. Il joue également dans Profiler. Hein,
ouais, faut expliquer un peu qui était Ray Wise très rapidement en une phrase, quoi, sinon ils suivent pas derrière. Hein.
Ouais, mais c'est le papa de Laura Palmer, hein, c'est pas compliqué. Hein,
Excuse-moi. Bon, là, il est tombé.
Ouais. On le voyait également dans Profiler, dans Diagnostic Meurtre, dans Beverly Hills. Il a fait deux fois Star Trek. Il a fait Voyager. Et d'ailleurs, le Star Trek Voyage, il est pratiquement méconnaissable, puisque bon, c'est un espèce d'extraterrestre. Donc, il faut le reconnaître vraiment à la gueule. Enfin, mais sinon, tu le reconnais pas. C'est impossible. Dans Star Trek Voyager, les épisodes qui passent cette semaine, hein, on le voit, Ray Wise. Également dans Next Generation, il a fait Dream On. Il a fait le Larry Sanders Show. Il a fait la loi de Los Angeles. Ça, c'est encore très très loin, début des années 90. Moonlighting, c'est-à-dire Clair de Lune.
Avec
Bruce.
Bruce Willis, voilà.
Bruce Willis, voilà.
Énorme.
Il a fait les Colby. Il a fait les Colby, hein, qui était une énième variation de Dallas Dynasty et tout ça. Hein. Il y avait également les Colby. Hein. Les Colby, d'ailleurs, hein, c'est tiré de Dynasty.
D'ailleurs, oui, hein, c'est une spin-off.
C'est un spin-off. Il y a Airwolf, c'est Supercopter, The A-Team.
Ah non, l'agence tout risque.
Remington Steel.
Ah oui, grandiose, Riptide, excellent.
Lou Grant et Charlie's Angels en 78. Donc, ah tu ouais. vois que pas mal hein, quand même. Quoi.
Ah pas mal. Et il
pas mal.
Et c'est marrant parce que c'est vraiment les productions. Pas Stephen Chanel, mais Belisario et tout. Il a vraiment navigué auprès de tous les producteurs. Lui.
Acteur télé confirmé de toute façon, sans problème. Il n'y a pas de problème.
C'est impressionnant.
C'est pour ça que bon, David Lynch l'a choisi, je pense, en connaissance de cause. Hein. Certainement vu dans pas mal d'apparitions, sans problème. Ray Wise, donc, qui par ailleurs était marié en première noce avec une nana qui lui a donné deux filles. Et est actuellement fiancé, puisque sa première femme est morte, avec la fille de Raymond Burr, l'homme d'acier, Robert d'acier. Ouais. Voilà pour Ray Wise. Donc la semaine prochaine, je sais pas qui je vous ferai, mais enfin bon, on verra. Hein. De toute façon, c'est au gré des apparitions comme ça. Je vois une tronche à l'écran, tu vois. Je me dis, ah oh ouais, lui, il est trop bon, quoi. Hop, on va le prendre.
Alors méfiez-vous, parce qu'un jour, on va faire un concours. Du sport va nous mettre à l'épreuve dans les concours des seconds rôles des séries télé. Et là, Thomas et moi, on va pas la mener large.
Et là, on termine avec pas du second rôle, du premier rôle. Je vous ai fait un spécial parce que je sais qu'il y en a qui l'adorent. Il y a des fans inconditionnels.
Aïe. Hein. Aïe.
MacLeod.
Oh non.
MacLeod.
Oh non.
Le vrai, le seul. Il n'en restera qu'un.
Oh non,
Christophe Lambert.
Donc attention, on fait un concours de qui prononce Christophe Lambert le mieux.
Christophe Lambert.
Blondinet.
Ciné Frisson qui a décidé de vous faire un spécial Christophe Lambert. À partir de demain soir, tous les soirs, un film avec Christophe Lambert. Demain soir.
Non, c'est pas vrai.
Si pas deux. Demain soir sur Ciné Frisson 20h45. Alors celui-là on l'a vu et revu deux doigts sur la gâchette, hein, le Deron Sarafian de 94 avec Mario Van Peebles, hein, ces deux escrocs minables et tout, où il y a même Patrick Stewart qui joue le rôle du méchant. Ça c'est
non. Oh non.
J'avais vu, ça se passe dans la jungle et tout. Donc c'est demain soir à 20h45 avec Christophe Lambert, hein, toujours. Et sinon à 22h15, eh ben là une de ses apparitions antérieure à Greystock, hein, donc attention, c'est déjà un incunable pratiquement.
Aïe.
Apparition dans le film français de Claude Barrois de 1980, le bar du téléphone, une espèce de polar français sur un fait divers qui est réel, hein, où il y a plein de malfrats qui se sont fait assassiner dans un bar à Marseille comme ça.
Ah bon,
comme à la belle époque, tu sais.
J'ai eu peur que tu parlais de Subway sur le coup, donc.
Non, attends, c'est pour la fin. Lundi à 20h45, toujours sur Ciné Frisson, Adrénaline, un film de 97 avec Albert Pyun, un des pionniers et un des fers de lance, hein, du cinéma B et du cinéma Z, hein, Albert Pyun, et avec la participation de la mutante Natasha Henstridge. Donc ça vaut le coup. Mardi, La Proie de 95 avec GF Lawton, avec là ça a l'air de se passer ça a l'air de se passer en Asie, hein, parce qu'il y a que des asiatiques, hein. John Lone, Joan Chen, bah ouais, on parlait de Twin Peaks avant, bah voilà, encore
la boucle est bouclée.
Mercredi, toujours sur Ciné Frisson à 20h45, ça c'est le gros classique, hein, qu'on nous ressort, mais alors je sais pas, on peut le voir au moins 50 fois dans la semaine. Non, pas du tout. Il s'agit de Fortress, bien entendu.
Oh non,
le Stuart Gordon de 93.
Oh non, mais quel bouse.
Avec Kurtwood Smith, mon gars.
Ouais,
c'est
mais
mercredi.
Il faut bien payer ses impôts, hein, que veux-tu. Enfin bon.
C'est mercredi soir sur Ciné Frisson à 20h45. Jeudi soir, eh ben là, on fait dans le Franchouillard avec Max et Jérémy. Le film de Claire Dever avec Philippe Noiret et Jean-Pierre Marie, l'histoire du tueur à gages, là, le vieux qui forme le jeune et tout, quoi. Vendredi, par contre, ça peut être pas mal, hein, c'est The Point Man, un film de 2001 de John Glenn avec Kerry Fox et Vincent Regan, c'est toujours Ciné Frisson. Ou alors, si vous aimez pas trop, si vous préférez le gros classique, le film où il est tout peroxydé, Subway, qui passe vendredi prochain à 20h55 sur TPS Star, mon gars, c'est ça. c'est pas de la programmation, hein, je m'en vais alors.
Non, reste là, file-moi tes feuilles parce que sinon Thomas va encore se paumer. Fais-toi une sélection, tiens, dans les BD là que j'ai chroniqué là tout à l'heure, puisque je vais donner les références, tiens, rapidement, puisqu'on a un peu le temps, puisqu'il est 13h13:30, c'est pas aujourd'hui qu'on va battre le record. Isabelle de Temps sur les terres d'Horus, Serge de Tendre et Taduc pour Tinaman, Will Eisner le complot, Diaz Canales et Guardino pour Black Sad, et Aldeman et Marvano pour Dallas Bar. Je publie les chroniques ce week-end, donc vous pouvez les retrouver, et pour cela vous tapez supplément week-end MP3 OG, normalement vous allez tomber dessus, puisqu'on peut écouter l'émission en podcast, c'est-à-dire vous abonner via votre iTunes ou Google Reader, et comme ça, eh ben, vous êtes tenu au courant, vous pouvez réécouter tranquillement au bureau, ou bien, je sais pas si vous êtes VRP dans votre autoradio, tranquille, sans problème de réception, sur Radio FMR. Et donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net. Voilà. Écoutez Radio FMR, c'était Supplément Week-end avec Xavier du Sport. Thomas revient la semaine prochaine avec théoriquement une grosse sélection DVD. Bah oui, c'est Noël, ça approche. La suite des programmes sur Radio FMR en mode progression. C'est à 15h, à 16h, Big Bang, 17h, Vie d'ordure, 18h, On est chez nous, 19h, Happy Her, 20h, Last Hetero Experience, 21h30, Liquid Sky et 23h, Breakbeat Experience. Radio FMR, nous sommes en direct sur Toulouse jusqu'à 5h du matin.
Le son des flops.